Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici R. Dubois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes en 107.5 FM ou en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de François Lisée. Bonjour.
Bonjour Yves.
François Lisée, vous êtes ici pour nous parler de Microflore Atelier, donc une avancée en quelque sorte, d'après vous peut-être, et aussi dans une démarche d'éducation populaire, scientifique et pratique, vous proposez aussi des conférences gesticulées de microbiologie générale et humaine. Alors, on peut peut-être décrire ce qu'est d'abord Microflore.
Oui, bah oui, c'est un mot qui tombe bien parce que c'est un mot scientifique. Hein. C'est un mot scientifique que j'ai choisi parce que il illustre assez bien mon propos puisque par définition la microflore c'est l'ensemble des micro-organismes qui composent notre environnement proche, hein, et non pas martien. Hein, c'est plutôt la microflore terrestre hein, que décrit ce mot microflore.
Avant de continuer, vous êtes ingénieur des biotechnologies et microbiologiste. Alors, on peut peut-être rapidement décrire ce que sont ces deux matières.
Tout à fait. J'ai une formation d'ingénieur classique, donc orientée vers la biologie et les biotechnologies. Les biotechnologies sont un domaine qui traverse l'industrie, la recherche. Et l'industrie agroalimentaire en particulier, puisque en industrie agroalimentaire, on manipule ces denrées organiques, hein, ces denrées biologiques, ces aliments biologiques. Donc la biotechnologie, pour simplifier, on peut dire que ça va du yaourt jusqu'au vaccin, puisque dans le yaourt, on retrouve des micro-organismes, et dans le vaccin, on utilise des micro-organismes pour produire des vaccins. Voilà, et au milieu, il y a la bière, le vin et toutes ces choses fermentées. Il y a aussi l'insuline, hein, qu'on peut citer comme exemple, qui est produite par une bactérie. Cette insuline que les diabétiques s'injectent tous les jours. Elle est produite par une petite bactérie et c'est les biotechnologies qui ont réussi à transformer cette bactérie pour qu'elle produise l'insuline. Voilà. Et la microbiologie, c'est l'étude de tous ces micro-organismes, tout simplement.
Microflore, qu'est-ce que vous avez voulu proposer justement autour de ce mot? Et en plus, vous proposez des ateliers, je suppose.
Tout à fait, Yves. Je vous remercie de votre invitation. Vous m'avez croisé sur le marché. On s'était déjà croisé. Moi, je ne savais pas que vous étiez rédacteur à Diwa. Donc, j'étais bien content que vous veniez vers moi pour me proposer cette interview. Et effectivement, c'est sur le marché que vous m'avez vu, parce que sur les marchés, donc j'ai commencé à produire des aliments fermentés parce que je sais qu'ils peuvent faire du bien à certaines personnes et ces personnes m'ont approché sur le marché, des gens qui sont par exemple en rémission de chimiothérapie et dont la flore intestinale est vraiment réduite ou en tout cas altérée. Et donc oui, j'ai fait ces marchés pour attirer ces gens-là, et finalement ces gens-là m'ont demandé un peu plus que de leur faire goûter ces produits ou de leur proposer ces produits. Ils m'ont demandé de leur parler un peu plus de microbiologie. Et effectivement, je me suis dit François qui a été prof, François qui a œuvré comme militant pour l'environnement, peut-être que maintenant François pourrait proposer une transmission un peu plus précise sur la microbiologie, puisque c'est l'actualité.
Alors, vous avez justement, pendant 15 ans, exercé toutes sortes d'activités autour de l'écologie, de l'éducation à l'environnement, et puis l'enseignement des sciences, comme vous le disiez. Et qu'est-ce qui vous motive donc pour cette création? Est-ce que pour vous, il y avait un complément à trouver ou à ajouter dans ce qui était proposé ou dans ce qui est proposé aujourd'hui pour se nourrir?
Effectivement. Alors oui, qu'est-ce qui m'a amené jusqu'à jusqu'à formuler ces ateliers, adopter ce nom, Microflore Atelier. Bon, encore une fois, c'est la demande des gens. Et effectivement, s'il y a une demande, c'est qu'il y a un manque. Et peut-être que ce manque vient du fait que, bah, on aborde la microbiologie en troisième, on aborde le microbiote en troisième à l'école, et puis si on ne poursuit pas des études de microbiologie, on se détache de ses connaissances, on n'a pas vraiment l'accès quelque part, parce que c'est souvent un discours assez scientifique. Donc je me propose de parler de microbiologie de manière un peu plus gesticulée et poétique qu'un docteur en blouse blanche. Parce qu'effectivement, il y a peu d'informations qui circulent. On nous parle de virus, on nous parle de contamination, on nous parle de surinfection. Et puis, on nous parle surtout d'agression extérieure et moins de protection intérieure. Donc en fait, parler de microbiologie peut-être maintenant, c'est essayer d'amener les gens à regarder un peu plus dans le microscope et de voir que ces micro-organismes, ils sont autant nos alliés que nos agresseurs. Pour certains, en tout cas. Et donc, certainement que cette demande va répondre à un besoin, à une curiosité de la population vis-à-vis de ce monde microscopique avec lequel il faut composer, parce qu'il fait partie de la vie intérieure, encore une fois, et extérieure à notre corps et à l'environnement en général.
Vous parlez de microscope. Vous l'utilisez vous-même dans votre activité ?
Non, je ne l'utilise pas dans mon activité. On peut observer les micro-organismes par leur couleur, parce qu'au bout d'un moment, quand ils sont en colonie, finalement, on les voit. Malgré qu'ils soient microscopiques, une fois qu'ils ont formé une colonie, on peut la voir. On voit la moisissure sur le pain, on voit la moisissure sur les fruits, on voit l'expression de ces colonies qui deviennent visibles. Et elles s'expriment par leur couleur, par leurs odeurs aussi, hein. Et puis par la manière dont elles transforment les aliments. Voilà. Donc j'ai pas besoin de microscope vraiment. Juste avec mon nez et mes yeux, j'arrive à savoir si j'ai réussi ma lactofermentation ou pas. Et parfois sur une plaie aussi, ou sur quelque chose qui est infecté, ou la couleur des glaires, on peut se douter qu'il y a tel ou tel candidat, ou tel ou tel micro-organisme qui se développe, quoi.
Par rapport à ces moisissures dont vous parlez, ou est-ce que pour vous il y a justement une étude à faire sur, et je pense qu'elle se pratique, hein, vous parliez de pénicilline, ça c'était une dérive justement de champignons. Je voulais savoir, est-ce que il y a dans cet aspect de votre travail cette recherche aussi à trouver un dérivé justement de ce qui est la déperdition du comestible?
J'ai pas vraiment cette prétention, parce que pour faire ça, il faut un laboratoire et je suis pas un rat de laboratoire, en fait. Donc, j'ai pas la facilité de rester longtemps enfermé et tout ça. Donc, il faudrait effectivement pouvoir classer les aliments dans leur valeur, entre guillemets, microbiologique, parce que beaucoup de légumes et beaucoup de choses qu'on achète dans le commerce, hein, même des choses bio, elles sont pasteurisées, elles sont lyophilisées, elles sont stérilisées, c'est des légumes qui viennent de serres où il n'y a pratiquement aucune bactérie qui circule, parce que, par exemple, en hydroponie, on ne veut pas qu'il y ait de bactéries qui viennent contaminer notre arrosage, l'arrosage des systèmes d'hydroponie. Donc on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de nourriture qui est exempte, en fait, de micro-organismes. Et qui peut poser certains soucis parce que l'aliment ancestral était recouvert de micro-organismes, hein, comme un fromage, comme un yaourt, comme une bière sur le vin. Il y a des aliments qui contiennent des micro-organismes, et on voit que dans l'industrie et dans le commerce, on en trouve de moins en moins, hein, même si les aliments sont bio, ils n'apportent pas de probiotiques, ils n'apportent pas de micro-organismes. En fait.
Ce qui veut dire que, par exemple, dans le Diwa, on peut trouver plus facilement des produits dits biologiques, ou voire d'agriculture raisonnée, donc peut-être qu'ils soient plus propices également à se dégrader en moisissure, des choses comme ça. Ça, c'est pour vous primordial, le Diwa, pour ça?
Disons que... disons que c'est le DIY qui dans lequel vraiment ben je m'implante cette année, qui a porté cette action, même si elle aurait pu être portée ailleurs, mais effectivement ici c'est plus simple pour moi de montrer aux gens, enfin d'avoir accès à des légumes de qualité, voilà, tout simplement. Et puis une écoute un peu plus attentive vis-à-vis de la prévention de la santé, hein, plutôt que d'essayer de soigner une fois qu'on est malade. Ici, effectivement, il y a quand même une population qui est assez sensible au fait de se prévenir de la maladie avant qu'elle arrive. Voilà.
Justement, vous parlez de proposer des conférences gesticulées. Donc, j'imagine que ça, c'est un secteur qui vous permet de vous déplacer et d'aller au-devant d'un public. Et d'ailleurs, ces zones de secteur, lesquelles ciblez-vous pour vous rendre justement dans ces conférences?
Effectivement, j'essaie de projeter ça déjà, alors que ça vient de commencer. Donc, je vais essayer de pas trop m'évader tout de suite et de rester un peu dans le DIY et d'attirer peut-être les gens de la vallée de Quin, les gens du Gapois qui peuvent éventuellement se déplacer. Mais bon, effectivement, j'aimerais bien que ces conférences se déplacent. Mais d'abord, il faut que je les teste. Et donc, on a programmé avec la Maison du Col à Marignac donc deux premières conférences qui arrivent bientôt. Je vous donnerai les dates à la fin. Et donc, cette Maison du Col qui m'accueille avec une cuisine professionnelle, donc qui va permettre, donc suite à la conférence gesticulée qui parle de microbiologie générale pour aller vers le microbiote humain, qui se recentre vers notre microbiome, c'est-à-dire notre environnement microbien à nous, les hommes, en relation avec, bien sûr, tous les autres. Hein, mais voilà pour la première partie de la journée de ces conférences gesticulées. Et puis, en deuxième partie de journée, on passe en atelier. Et là, je propose au public de simplement d'appréhender les bons gestes qui permettent, par exemple, de faire une lactofermentation propre, c'est-à-dire une lactofermentation qui va sentir bon et pas une lactofermentation qui va être un peu contaminée par des choses qu'on ne voudrait pas et qui va sentir des odeurs pas très agréables. Voilà. Et puis, les gestes pour finalement faire de la microbiologie dans sa cuisine. Et un autre exemple, c'est le tempeh, donc ce champignon filamenteux microscopique blanc qui est une moisissure, hein, qui se développe sur le soja et qui demande des conditions physico-chimiques un peu particulières, une température particulière, une humidité particulière. Donc voilà ce que je propose aux gens, c'est que mes connaissances en microbiologie, elles peuvent servir à leur donner et à leur montrer, hein, concrètement les bons gestes pour faire ces produits-là sans risque que ce soit mauvais. Et puis ensuite, qu'ils aient vraiment leur potentiel probiotique pour la lactofermentation et prébiotique pour le tempeh. Je pourrais définir ces deux termes plus tard, mais je pense que les auditeurs en connaissent déjà peut-être un rayon.
Alors justement, le tempeh, c'est ce que vous proposez sur votre stand au marché. Ça se présente comme un pain à découper et vous le proposez vous-même en le cuisant avec quelques épices ou quelques ingrédients. Est-ce que c'est l'unique produit que vous proposez ou alors vous pensez élargir un petit peu les productions ?
J'aimerais, au niveau des productions, je fais ces productions pour attirer le regard des gens là-dessus. Je fais ces productions parce que effectivement elles font du bien à la personne qui revient avec un microbiote complètement déprimé, qui sort de sa chimio. Et donc je suis content d'être sur les marchés, je suis content de faire cette production. Et en même temps, la démarche, c'est vraiment de les amener vers ces ateliers pour qu'ils puissent eux-mêmes faire ces préparations à la maison avec les bons gestes. Et effectivement, donc, je propose le tempeh, donc je serai demain... Je serai sur le marché encore jusqu'au mois d'octobre avec ces produits. Donc le tempeh, qui est un prébiotique, donc, comme vous l'avez décrit. En fait, le prébiotique va nourrir la flore intestinale. Et puis je propose donc une lactofermentation coréenne qui s'appelle le kimchi, que je propose sans piment, parce qu'il y a le kimchi blanc qui existe aussi, et qui est donc une lactofermentation, donc qui est un probiotique, parce qu'il est plein de lactobacillus, qui est un des plus grands acteurs... c'est le micro-organisme qui occupe le devant de la scène de notre système digestif. Donc là, avec du kimchi et ses légumes croquants, Le kimchi, c'est autant un moyen de conserver les aliments que de se faire du bien. Donc, je pense que les gens ont intérêt à apprendre à bien faire ces choses-là parce qu'elles elles ont une valeur qui traverse plein de domaines, hein, l'écologie, l'économie. Voilà, donc on va essayer de parler de tout ça en atelier.
Ce pain de tempeh, comment se conserve-t-il au frais, à l'air ambiant?
Et oui, en fait, les deux produits sont sympas parce qu'on a un produit aérobique et le tempeh et un produit anaérobique et le kimchi. Effectivement, je pourrais proposer d'autres, par exemple du kéfir de lait ou même faire ces yaourts. Hein. C'est des choses que les mamans, que beaucoup de mamans savent faire, que beaucoup de gens savent faire, que beaucoup de papas savent faire. Faire ces yaourts. Après, il y a des choses plus sensibles. Faire un yaourt, ça demande quand même de l'hygiène et certains gestes. Après, voilà, faire des produits un peu plus compliqués, ça peut en demander d'autres. Et pour répondre à votre question, Yves, sur le tempeh, le tempeh, donc, c'est une moisissure qui est aérobie, elle a besoin d'oxygène. Hein, donc, quand je le fabrique, il faut absolument que le soja respire avec les spores pour que les spores soudain colonisent ce soja et finalement prennent la place des autres micro-organismes qui pourraient venir se développer sur le soja. Donc on réunit les conditions pour que Rhizopus oligosporus, hein, qui est ce champignon unicellulaire, mais qui fait des filaments, hein, qui se développe en cheveux en fait, on va réunir les conditions pour qu'il se développe sur ce soja, qu'il forme ce pain qui peut se conserver une semaine si on le laisse respirer. Voilà, si on le laisse respirer, il va se conserver une semaine, il va passer en sporulation, c'est-à-dire qu'il va se couvrir d'un petit voile gris, parce que les spores, un peu comme sous le chapeau d'un champignon, on a une couleur sombre, et là, il y a une petite couleur sombre qui se développe sur le dessus, qui ramène un côté gustatif intéressant et qui ne pose aucun problème sur la consommation du produit. Donc, une semaine à respirer au frigo, on peut garder son tempeh.
Le blob, est-ce que ça, c'est un être qui... pour lequel tu y trouverais un intérêt?
Oui, en tant qu'amateur d'art, en ce moment, il y a beaucoup de biohackers, artistes qui s'éclatent avec le blob, les enfants à la maison qui s'éclatent avec le blob, parce qu'effectivement, c'est des colonies qu'on peut voir assez facilement, puis en plus, c'est des colonies qui se déplacent, qui prennent des formes assez rigolotes. Donc, pour les enfants, c'est très bien, quoi, comme éveiller la microbiologie. Pour les biohackers, c'est un moyen de révéler une nature qui est microscopique, mais de la révéler de manière macroscopique, c'est-à-dire qu'on peut la voir vraiment en grosse dimension. Ça me rappelle des artistes qui travaillent sur la moisissure et qui laissaient des aliments pourrir comme ça pendant des semaines et qui étaient en exposition. Donc ma curiosité en ce moment, elle se porte plus vers comment notre population microbienne intérieure et extérieure, et en particulier celle qui tapisse nos muqueuses, peut être la barrière à ce qui nous agresse en ce moment, c'est-à-dire un deuxième coronavirus qui est après le COV-1, enfin après le SARS-CoV-1, le SARS-CoV-2, qui arrive encore un peu plus virulent, et finalement, peu d'informations, à part, oui, c'est un blob. Oui, c'est un blob, mais c'est un blob qui s'attaque à nous, et c'est un blob qui mériterait qu'on dise aux gens comment s'en protéger un peu plus, quoi, qu'il y ait un peu une information sur comment se protéger de ces agressions qui viennent des microbes et des virus en particulier.
La conception ou la fabrication d'un tempeh prend combien de temps pour suivre le processus?
C'est très simple, hein, les micro-organismes ont en général des capacités à se développer très vite. Ils peuvent passer, c'est un développement exponentiel, hein, puisqu'on a un organisme qui en donne 2, 2 qui en donne 4, donc c'est 2 puissance n. Hein, en général, la courbe de croissance des microbes, elle est un petit plat, et puis d'un coup, elle monte en flèche, et puis ensuite, il y a un autre petit plat, et cette montée en flèche correspond à ce développement très rapide de ces unicellulaires. Et pour le tempeh, finalement, une fois qu'on a ensemencé avec nos spores sèches, une fois qu'on a ensemencé notre soja, on le laisse respirer à 25-30 degrés et en 36 heures, ça devient ce pain qui est comparable au niveau nutritionnel à un steak, parce qu'il a autant de protéines et de la vitamine B12. Et en plus du steak, c'est la nourriture parfaite pour son microbiote, donc il est mieux qu'un steak. Et ça se produit tout simplement en 36 heures dans un four avec la lampe allumée.
Et au niveau nutritionnel, quel est son apport ?
Son apport, c'est que, en fait, c'est un produit qui est donc à moitié déjà digérée par les enzymes du champignon. Donc le champignon fait la moitié du travail que devrait faire notre système digestif. Le champignon prépare le travail, et donc quand ça arrive dans le système digestif, ce tempeh, il est plein de toutes les molécules déjà qui aident le microbiote à métaboliser les aliments. Il est plein de ces fibres qui vont être grignotées par notre microbiote, et il adore aussi. Donc en fait, c'est un prébiotique, hein, dans le sens où c'est un soja prédigéré, donc un soja où aussi les problèmes de perturbateurs endocriniens peuvent être réduits parce que l'hormone a été digérée, hein, par le champignon aussi. Parce qu'on sait que dans le soja, il y a des petits problèmes, mais bon. Là, il est prédigéré, donc le système digestif l'accueille comme un peu comme... comme une cerise sur le gâteau, je ne sais pas comment dire. Il l'accueille à bras ouverts parce qu'effectivement, il contient tout ce qu'attend ce microbiote, qui est une population variée avec des populations dominantes et d'autres un peu plus modestes. Mais en tout cas, voilà, il arrive et il permet au microbiote de se nourrir de telle manière qu'il se maintient et qu'il se sent bien, en fait. Hein. Voilà le potentiel de ce tempeh.
Alors, vous parliez justement de petits ateliers qui vont se dérouler prochainement à Marignac, hein, si j'entends bien. Comment ça se passera, donc, pour les personnes? D'ailleurs, combien de personnes vous pouvez recevoir pour ces ateliers? Et quelles seront les activités qui y seront faites?
Eh bien, oui, c'est l'heure de faire un peu l'annonce de ces petits ateliers à la Maison du Col à Marignac. Qui vient de réouvrir parce qu'elle était en travaux apparemment, et Mathilde Rousseau, qui est également adjointe au maire à Marignac, ouvre ses portes, puisque c'est elle qui tient ce lieu maintenant, qui je l'ai appris récemment, était un haut lieu de la résistance, hein, résistance aux microbes, résistance en général, finalement tout rejoint. Et donc voilà, donc pour préciser les dates, je propose deux dates pour l'instant. Ce sera le 29 octobre, qui est un mercredi, et le 29 septembre, qui est un mercredi, et le 9 octobre, qui est un samedi. Des journées où on va passer 6 heures ensemble, c'est-à-dire de 10h à 16h30, avec un repas partagé où on pourra continuer à discuter justement de nutrition et de choses que je peux connaître, et que sûrement les personnes qui participeront au stage auront aussi plein de choses à m'apprendre. Parce que je ne suis pas nutritionniste, moi, je suis microbiologiste, et je propose juste les gestes pour arriver à la maison à produire des choses fermentées, en réduisant les risques de les rater et en réduisant les risques qu'ils soient mauvais. Donc dans une première partie de journée, on va parler beaucoup de microbiologie et en partant du général vers le particulier, en parlant donc de microbiologie générale. Donc décrire les micro-organismes, les classifier, savoir quelles sont ces familles de micro-organismes, comment ils fonctionnent, un peu leur métabolisme, hein, avec oxygène, sans oxygène. Et puis resserrer donc ce discours vers l'environnement microbien humain, c'est-à-dire microbiome humain et microbiote humain. Voilà pour la matinée. Et l'après-midi, on passe en atelier avec des choses que j'aurais préparées à l'avance, comme ça on aura juste à assembler les choses. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de gestes, et le geste est important parce que c'est des gestes qui sont un peu particuliers à l'hygiène, et bien sûr qu'on connaît, mais voilà, pour avoir une hygiène un peu plus poussée, une hygiène qui permette de faire ces produits, hein. Je ne parle pas d'hygiénisme, hein, je parle d'hygiène simplement pour fabriquer ces produits, hein, au niveau des mains, au niveau environnement de la cuisine et tout ça, il faut effectivement préparer les choses pour pas rater ces préparations. Et c'est ça que je me propose de donner l'après-midi. Et pour revenir sur le matin, effectivement, il y aura aussi une grosse partie sur la relation entre notre santé et notre flore microbienne commensale, c'est-à-dire quels sont les avantages d'avoir une flore en bonne santé et d'avoir une flore qui est propre à soi. Et finalement, lui donner les conditions favorables pour qu'elle nous maintienne en bonne santé, parce qu'elle est en grande partie responsable de notre santé, et ça, on le sait depuis une dizaine d'années maintenant.
Pour vous joindre, hein, afin de participer à ces ateliers, quels sont les moyens pour l'auditeur?
Pour l'auditeur, on peut me contacter directement pour poser d'autres questions. Pour me contacter directement, effectivement, c'est mieux d'écrire un mail Alors j'ai créé un mail chez Mailo qui est microflore@mailo.com, hein, microflore avec un E, @mailo.com. Et c'est là-dessus que je préfère que les gens m'écrivent et fassent leurs réservations. Donc la journée, elle est proposée à 50 €, donc avec les produits qui sont fournis, et puis on retourne à la maison avec son petit pot de lactofermentation et puis sa barquette de tempeh à garder au chaud sous l'oreiller pour la déguster 36 heures après si on a bien veillé à le garder au chaud, enfin à la bonne température. Et donc voilà, le prix proposé donc pour la demi-journée est de 50 € pour cette journée de 50 € avec un tarif réduit à 35 € pour les gens qui sont sans emploi ou les gens qui ont des problèmes financiers sur le moment.
Et puis, on peut vous retrouver, comme je vous disais, sur le marché de Die, seulement celui de Die.
J'alterne entre Luc et Châtillon quand je peux, parce que j'avais aussi des très bons retours sur ces deux marchés. Donc voilà, Die Châtillon Die ou bien Die Luc Die, je vais essayer d'être bien, bien régulier.
Et donc, on peut vous y trouver et puis là, engager des conversations sur ce que vous faites ou proposez, du moins. Eh bien, François Lisée, je vous remercie de nous avoir donné un peu de votre temps pour présenter Microflore Atelier et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci Yves, merci beaucoup pour l'invitation encore.
Au revoir.